Je suppose que vous rentrerez toutes à l'école normale l'année prochaine.
Non, moi je rentrerai chez moi.
Comment vous appelez-vous ?
Claudine.
Un été avec Colette.
J'ai beaucoup entendu parler de vous.
J'avoue que mon instruction n'a pas dépassé l'école primaire. Vous n'allez pas me mépriser, j'espère bien que non.
Par Antoine Compagnon.
De la Bretagne au Midi.
On associe Colette à Saint-Sauveur en Puisée, sa terre et sa maison natale, son école, ses souvenirs d'enfance, ainsi qu'à Paris, à ses nombreux déménagements jusqu'au Palais Royal où elle passa ses dernières années. À cause de son accent, soigneusement conservé, on identifie Colette au terroir, mais elle a beaucoup voyagé à l'étranger. Ses tournées de musicals et de théâtre l'ont souvent menée à Bruxelles, Genève et Lausanne ou Monte-Carlo. Elle a visité la Tunisie en 1911, elle a emmené Bertrand Jouvenel en Algérie en 1922, Maurice Goudeke au Maroc en 1926 et 1929. Elle a fait la traversée inaugurale du paquebot Normandie en 1935 comme reporter pour le journal et visité New York durant 5 jours. Mais l'attachement de Colette à la France reste atavique, à la province, avec un père dont la famille, originaire de Lorraine, était fixée à Toulon depuis plusieurs générations, et une mère, née à Paris, d'une famille originaire des Ardennes, élevée en Bourgogne et en Belgique, revenue se marier en Bourgogne. Deux maisons ont surtout compté. La Villa Rosven, la Rose des Vents, près de Saint-Malo, achetée en 1910 par Missy au nom de Colette, qui y passe les vacances à partir de 1911, un grand mois d'août débordant autour et où elle écrit à l'abri des théâtres et de la presse. C'est là qu'elle commença Chérie, qu'elle revint en 1921 avec sa fille Belle Gazou, les deux fils de Jouvenel, et de nombreuses hôtes, tandis que Sidi faisait des allées et venues.
Comment était l'atmosphère de Rosven ?
C'était une petite maison grise perdue dans un repli de dunes.
Germaine Beaumont, amie de Colette.
Et qui avait l'avantage de disposer de sa plage particulière. Colette recevait des amis.
Oui, et il y avait Bertrand.
Pas, mais Bertrand en venait assez régulièrement.
Il y a aussi Bertrand de Jouvenel que sa mère m'a confié pour son hygiène et son malheur. Je le frictionne, le gave, le frotte au sable, le brunis au soleil.
Écrit-elle à Marguerite Moreno. C'est là que l'on imagine le blé en herbe. Après avoir divorcé de Jouvenel, s'être séparée de Bertrand et avoir rencontré Maurice Goudeke, Colette s'enthousiasme pour le midi dès 1925. Désormais à la mode, été comme hiver.
Elle prit véritablement possession de ce pays, surtout comme un chien de chasse.
Maurice Goudeke.
Elle en flairait toutes les odeurs. Je l'ai vue absolument enivrée par cette découverte.
Elle achète près de Saint-Tropez une maison qu'elle nomme la Treille Muscate, tandis que Rosven est vendue, et elle séjourne désormais en Provence durant l'été, saison de loisirs qui lui permet une écriture plus ample.
Vous êtes allé souvent à la Treille Muscate ?
Alors, je l'ai très fréquemment à la Treille Muscate. C'était l'espèce de vie rustique.
André Dunoyer de Segonzac, peintre.
Car Colette ne menait pas du tout une vie de femme de lettres. C'était beaucoup plutôt une femme qui labourait son jardin le matin. Nous allions nous baigner à la plage des Salins. Je rentrais déjeuner avec elle. Elle était le contraire de ce qu'on appelle un bas bleu.
Ce que je voudrais te peindre, ce qui ne cesse de m'étonner, c'est ce pays. Sa température, son climat singulier et incomparable. Rien n'y souffre de la chaleur, pas même nous.
On reconnaît le cadre idyllique de la naissance du jour.
Est-ce ma dernière maison ? Je la mesure. Je l'écoute pendant que s'écoule la brève nuit intérieure qui succède immédiatement ici à l'heure de midi.
La Treille Muscate.
Colette.
Une petite maison dans la campagne. Au ras de la mer, et je ne peux pas vous cacher que je l'ai beaucoup aimé.
Mais Saint-Tropez devint trop encombré durant l'été. La Treille Muscate fut vendue en 1938. Puis la guerre interrompit toute villégiature. Colette remarquera qu'elle n'avait pas quitté Paris durant toute l'occupation et à peine le jardin du Palais Royal pour se rendre parfois jusqu'aux Tuileries.